Le Salon des maires et des collectivités locales du 19 au 21 novembre 2024 à Paris Expo, Porte de Versailles sur Radio Immo et Radio Territoria.
Eh bien voilà, de retour sur le plateau avec Territoria et Immo. On est ravis d'être avec vous. Voilà, beaucoup, beaucoup de monde aujourd'hui pour ce 106e congrès du Salon des maires de France. Je vous rassure, j'étais pas là il y a 106 ans, donc tout va bien. On est ravis d'être avec vous. Bonjour Patrick Ollier.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes président de la métropole du Grand Paris, vous êtes maire de Rueil-Malmaison. Alors vous avez un track record, comme on dit en anglais. Vous avez été ministre délégué aux relations avec le gouvernement, président de l'Assemblée nationale, président de la commission des affaires économiques de l'Assemblée nationale. Inutile de dire que vous, Patrick Ollier, vous incarnez cet homme politique qui connaît tous les rouages des institutions dans notre pays et qui avait la particularité de bien maîtriser la fonction de maire. C'est très important dans cet élément-là. La première question que j'ai envie de vous poser, avant de rentrer un peu plus dans le détail, on le voit aujourd'hui, la France est un peu à la croisée des chemins avec un examen, avec le projet de loi de finances dont les contours aujourd'hui sont pose question, avec une forte pression effectivement des collectivités locales à essayer de renforcer à la fois leur pouvoir mais aussi des leviers fiscaux, à l'instant où l'État a cette nécessité de devoir aujourd'hui faire des économies. Qu'est-ce que ça vous inspire, vous, Patrick Ollier, quand vous voyez le schéma politique actuel avec un gouvernement qui essaye de trouver encore ses marques?
D'abord, concernant le gouvernement, moi j'apporte mon soutien à Michel Barnier, qui est un ami personnel et dont je connais la compétence et le sérieux. Il a trouvé une situation dont il n'est pas responsable. Il essaye de la gérer avec la rigueur qu'on lui connaît, et les conséquences, bien sûr, sont difficiles pour tout le monde. Alors, s'agissant des conséquences pour les collectivités locales, là, il y a un problème. Parce que quand on nous dit 5 milliards sur les collectivités locales, qui fait la répartition de ces 5 milliards? Je ne pense pas que ce soit le Premier ministre lui-même. Et je pense qu'il y a des réflexions qui conduisent, malheureusement, par rapport à cette répartition des retraits de financement sur les communes. Moi, sur Rueil-Malmaison, c'est à peu près 4 millions d'euros de plus pour l'année 2025. Je ne sais pas où je vais les trouver. Je viens de repousser le vote du budget qui était pour le 15 décembre. Je viens de le repousser au mois de mars prochain pour essayer de trouver une solution. Tous mes collègues sont dans la même situation. Ça veut dire que d'ici la fin de la discussion parlementaire, d'ici la fin du Sénat et la commission mixte paritaire, je pense que le Premier ministre va réfléchir aux conséquences dramatiques, pas parce qu'on est maire et qu'on a plus de moyens à trouver, parce qu'on nous a supprimé la taxe d'habitation, qui est, la Constitution prévoit que les collectivités locales s'administrent librement, et la liberté de l'administration d'une collectivité locale, c'est pour le maire la possibilité de lever l'impôt. Et si les électeurs ne sont pas contents, ben ils ne revotent pas pour le maire, et le maire se fait virer.
Bien sûr.
Mais il ne peut pas lever l'impôt, il n'y en a plus. Il y a le foncier bâti qui représente une toute petite partie de la population. Et on ne peut pas taper cette petite partie pour payer pour tout le monde.
Je suis tout à fait d'accord.
Voilà. Donc c'est un énorme problème. Et que je pense que les discussions vont conduire le Sénat à réduire cette partie. Pourquoi ? Surtout parce que les collectivités locales représentent 72% de l'investissement dans ce pays. Si demain nous sommes obligés de réduire, comme on le prévoit par rapport à ces 5 milliards, les capacités d'investissement de nos collectivités, cela veut dire que des entreprises vont se retrouver sans contrat. Cela veut dire qu'il y aura du chômage. Et cela veut dire que ça sera pire que la solution et qu'il aurait pu être trouvé d'une autre manière pour répartir ces contraintes financières. Donc moi, je demande au gouvernement de réfléchir encore par rapport à ce que je viens de dire, parce que c'est peut-être ça qui est le plus grave. C'est que des effets collatéraux pour l'avenir sont extrêmement dommageables pour la situation de l'économie française et de l'emploi à cause du fait qu'on ne sera plus capable d'investir. Et nos populations ont besoin de services. Et pour pouvoir passer avec les contraintes qu'on nous impose, il faut qu'on supprime certains services. C'est terrible. C'est une équation quasiment impossible à résoudre. Donc j'espère que d'ici les 3 semaines qui viennent, la raison l'entendra et que le gouvernement fera en sorte d'accepter les propositions du Sénat pour un rétablissement d'un meilleur équilibre.
Bien
Parce que Michel Barnier a besoin d'être soutenu. Il a une situation extrêmement complexe à gérer. Il le fait avec sérieux. Et il faut bien qu'il résolve l'équation du manque d'argent pour l'État. Forcément. Voilà, donc j'ai bien beaucoup d'espoir sur les 3 semaines qui viennent.
Merci d'avoir répondu à ces questions. Vous avez en effet absolument raison. Alors, effectivement, alors, je vais faire une réponse de journaliste, mais c'est de dire que je trouve paradoxal, pour ne pas dire autre chose, que l'État endetté, l'État chroniquement déficitaire, enjoigne les maires, les collectivités locales qui, eux, ou elles, ont l'obligation d'avoir un budget à l'équilibre et de quasiment leur donner des leçons de gestion. Moi, je trouve ça un peu paradoxal d'enjoindre finalement à l'effort. Je peux le comprendre. On est tous soumis, on est tous contributeurs finalement de la dette dans une certaine mesure. Mais je trouve que redécouvrir les vertus des maires si tardivement et des élus locaux me semble pour le moins singulier. On peut le dire, ça.
Oui, on peut le dire et vous avez raison. Et c'est vrai que ce paradoxe que vous soulevez entre l'État qui peut s'endetter comme il le veut, et les maires qui sont obligés de voter les budgets en équilibre,
ben oui,
est un paradoxe qui s'ajoute à tout ce que je viens de dire.
Et en plus, ils vous donnent des leçons de gestion.
Mais le problème, c'est les conséquences pour la gestion des populations dont nous avons la responsabilité.
Bien
nous
sûr.
Sommes responsables de nos populations. Nos familles ont besoin des crèches. Nos familles ont besoin des centres de loisirs. Nos familles ont besoin de la restauration scolaire, etc., etc. Compte tenu des moyens, des modes de vie aujourd'hui, des familles monoparentales, enfin, moi j'ai une ville de près de 80 000 habitants, je sais de quoi je parle. Et si demain je suis obligé de réduire ces services à la population, c'est la révolution dans ma ville, mais pas seulement dans la mienne, dans toutes celles qui seront obligées de faire ça. Donc je demande, nous sommes d'accord pour faire des économies, nous sommes d'accord pour participer à l'effort national, mais il faut qu'on réduise la cible.
Je vais entrer au niveau de la région avec des annonces qui ont été faites. Je vais vous demander d'y réagir. Il y a quelques semaines, Valérie Pécresse a demandé, alors je vais citer assez précisément, à reprendre la compétence de la région alors qu'elle est aujourd'hui gérée par les métropoles, parce qu'elle estime que justement la compétence GEMAPI n'est pas traitée, on va dire, de façon cohérente ou pratique. J'ai trouvé ça un peu particulier, une réaction de Patrick Ollier.
Bon, je ne veux pas ouvrir de polémique avec la présidente.
Non, mais sans entrer dans la polémique, c'est pourquoi cette volonté de reprendre la compétence.
Je pense que cette proposition a été faite sans avoir fait sérieusement une analyse du dossier et sans connaître réellement les modalités de fonctionnement de la compétence dite GEMAPI, gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations. Car le système repose sur le fait que les intercommunalités qui sont GEMAPIennes puissent lever une taxe GEMAPI que l'on paie pour pouvoir financer des travaux destinés à limiter l'effet des inondations. Et c'est un système qui marche dans toute la France et dont les intercommunalités, car ce sont elles qui sont maîtres d'ouvrage pour créer les travaux, ça ne peut pas être la région, ça ne peut pas être la métropole, ça ne peut pas être Saint-Miralac. Et c'est donc un système qui est parfaitement équilibré et qui fonctionne d'une bonne manière, sauf que dans certains cas, c'est vrai, il y a des présidents d'intercommunalités qui ont moins confiance au système, qui n'ont pas envie d'entreprendre et qui restent un peu les bras croisés sans entreprendre des travaux. Ça doit certainement exister en France. Je ne discute pas de ça. Mais ce n'est pas une raison pour remettre en cause un système qui est un système efficace. Et la taxe GEMAPI que nous levons, elle est faite pour justement des plans pluriannuels de travaux que nous prévoyons, qui sont votés. Et si la région Île-de-France participait au PAPI, au plan d'aménagement et de prévention des inondations Seine-Marne-Francilien, qui est le grand PAPI pour la région Île-de-France, eh bien, elle se rendrait compte de tout ce que nous faisons. Pour l'instant, elle n'y participe pas. J'ai demandé à 2 reprises à Madame Pécresse d'adhérer. Elle m'a fait une réponse qui me donne l'impression qu'elle va finir par venir. J'attends une confirmation écrite pour l'inviter. Et je suis d'accord pour qu'elle rentre dans la gouvernance de Seine-Grand-Lac,
bien sûr,
qui est l'organisme qui gère l'ensemble de ces problèmes de mise en œuvre des travaux dont on parlera peut-être pour protéger les villes des inondations. Et la compétence de Seine-Grand-Lac, que j'ai l'honneur de présider, va jusqu'à Châlons-en-Champagne, où je serai d'ailleurs mardi prochain, ou jusqu'à Châtillon sur Seine, la source de la Seine quasiment, ou jusqu'à Château-Chinon, qui est célèbre parce
bien
que
sûr.
C'était la ville de M. Mitterrand. Donc on a un territoire énorme à partir de Troyes, Auxerre, etc., Saint-Dizier, et nous gérons 8 ou 9 papis sans aucun problème, et les choses se passent bien, les travaux se passent
justement,
bien.
Justement,
donc il n'y a pas de raison, excusez-moi, il n'y a pas de raison d'ouvrir une polémique
pour
quelque chose qui se passe bien.
Absolument.
Et je pense qu'une fois que la région aura mieux appréhendé les vraies conséquences du problème,
bien sûr.
Elle pensera à autre chose.
Oui, absolument, mais je confirme, hein, puisque avec la rédaction, on a étudié donc, avec les effets avant, pendant et maintenant, justement, et ça fonctionne plutôt bien. D'ailleurs, les retours sont, on va dire, les maires sont assez satisfaits. Justement, on
va en parler. Remercie.
On va en parler, puisqu'ils le disent. D'ailleurs, j'étais à Saint-Dizier il y a deux jours, et c'est tout à fait le cas. Mais il faut aller voir les maires, bien sûr, pour le savoir aussi, comment ils sont accompagnés. Le mois d'octobre a été marqué par beaucoup de dégâts, vous le savez, hein, Patrick Ollier. Comment la métropole, justement, a essayé d'accompagner les maires et a géré, finalement, quelque chose qui, à la fois, était assez violent pour les usagers, pour les administrés, et parfois des élus locaux qui étaient, pas démunis, mais vraiment en demande. Comment vous avez géré cette situation qui a été quand même assez singulière du mois d'octobre ?
Alors là, vous reparlez un peu du même problème du Grand et Petit Morin, en Seine-et-Marne.
Et oui.
Mais c'est un cas particulier. Parce que là, il y a eu quand même plus de 70% de précipitations sur ce territoire qu'auparavant. C'est un phénomène climatique qu'on ne peut pas prévoir. Parce que si on pouvait le prévoir, ça serait exceptionnel. Alors, au passage, je vous dis que ce phénomène climatique non prévisible, regardez ce qui s'est passé en Espagne.
Mais non prévisible, absolument, on peut le dire.
Regardez,
mais en Espagne, j'allais vous en parler.
C'est pas prévisible. Donc, regardez ce qui s'est passé en Espagne. La cruauté de ce qui s'est passé en Espagne, ce qui s'est passé en Italie,
bien sûr.
Ce qui s'est passé dans l'Est, et ce qui s'est passé au Grand Morin et sur le Petit Morin en Seine-et-Marne, c'est un peu moins grave qu'en Espagne, mais quand même un phénomène non prévisible de plus 70% de précipitations. Alors, quelle est la réponse? Nous, la métropole, on finance des bâtards d'eau. Vous savez ce que c'est que des bâtards d'eau? C'est pour empêcher l'eau de pénétrer dans la ville, c'est-à-dire qu'on crée des digues artificielles dans les rues. Qui sont adjacentes du cours d'eau pour empêcher l'eau de rentrer. C'est le système de rails, on met des pales blanches.
Très bien.
Voilà. Alors, on dépense des millions d'euros pour aller à Gournay-sur-Marne, par exemple, qui est une des plus petites villes de la métropole.
Oui.
Et vous verrez, demandez à Éric Siegel, le maire de Gournay-sur-Marne, il vous dira s'il est content ou pas des bâtards d'eau. Demandez à Pascal Perrin, le maire de Villeneuve-la-Garenne, qui est une plus grande ville où on a installé des bâtards d'eau qui font 7 mètres de longueur, surtout le long de la Seine, qui vont protéger des inondations, je pense qu'il vous dira qu'il est content. Mais il faut reconnaître que ce n'est pas suffisant. Et que la seule solution, c'est qu'on soit capable de déclencher un processus vertueux de construction d'équipements destinés à réduire l'effet des inondations. Ça doit commencer aux sources des différents fleuves, que ce soit l'Yonne, la Seine, la Marne, le Loing, peu importe le fleuve. Et que ça doit aller jusqu'à Paris, si c'est la région parisienne qu'on veut protéger, non pas aller au-delà. Et que ces travaux doivent être imaginés. Jusqu'à présent, excusez-moi, je vais être un peu brutal, je vais choquer des gens, ils ne l'ont pas été de la manière dont ils auraient dû l'être.
Ah bon.
Ça a été fait dans quelques endroits, mais sans beaucoup d'ambition. Ce que je veux, moi, en tout cas, c'est pour ça que j'ai pris la présidence de Seine-Gralac, en étant président de la métropole, c'est pouvoir, dans un système. Et ce matin, vous auriez été avec moi, avec François Barouin, nous étions dans une pièce à côté où on a expliqué ce que l'on fait sur Nogent-sur-Marne et sur Troyes, etc. Nous avons créé des digues dans la ville de Troyes pour protéger la ville de Troyes des inondations. Et qui l'a fait? Ben, c'est nous, c'est le Grand Lac. Et on le fait très bien. Si nous sommes compétents demain dans les villages concernés par le Grand Morin, on le fera aussi. Il se trouve que nous ne sommes pas compétents. Alors on ne peut pas s'occuper de choses dont nous ne sommes pas compétents. Vous comprenez bien. Voilà. En revanche, je pense que si j'ai écrit la veille des déclarations faites par Valérie Pécresse et monsieur le président du département de la Seine-et-Marne, Jean-François Parigi, j'ai écrit la veille à Jean-François pour lui dire que je ne suis pas compétent ni dans la métropole, parce qu'ils ne sont pas dans la métropole, ni dans Seine-Grand-Lac, parce qu'ils ne sont pas dans notre aire de compétence,
oui.
Mais que j'étais prêt à venir les voir pour voir comment on pouvait conclure un accord qui nous donnerait la compétence avec notre expertise et nos moyens financiers pour les aider à se sortir de ce problème. Et, écoutez, figurez-vous que l'idée a fait son chemin malgré les déclarations faites le lendemain et nous avons rendez-vous dans la deuxième semaine de décembre sur place à Melun et j'ai demandé à convoquer avec M. Parigi et M. Devastel, le président du SMIAGE, le syndicat compétent. On va réunir tous les maires et je vais leur expliquer ce que je souhaite faire avec eux. Je ne vais pas vous le dire au micro. Mais je vais leur expliquer, parce que s'ils acceptent ce que la métropole, les Seine-Grand-Lacs, ou Seine-Grand-Lacs et la métropole, peu importe, veulent faire avec eux, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on pourra avoir une compétence pour imaginer ce plan pluriannuel des travaux, premièrement, et nous le ferons. Et deuxièmement, on pourra apporter des moyens financiers avec Seine-Grand-Lacs, et nous le ferons. Et si ça ne suffit pas, des moyens financiers complémentaires que la métropole pourra apporter. Alors vous allez me dire, mais comment la métropole du Grand Paris peut-elle investir dans Seine-et-Marne? Mais monsieur, je vous répondrai, j'ai investi il n'y a pas si longtemps que ça, à Châtillon-sur-Seine, c'est un exemple que je cite souvent, parce qu'il manquait 100 000 euros pour faire un programme de ZEC urbaine, zone d'expansion des crues, hein, urbaine à Châtillon. Eh bien, j'ai dit au maire de Châtillon, en pleine réunion, parce que personne ne voulait donner les 100 000 euros, je dis, la métropole est là, elle vous apporte les 100 000 euros. Ce que je veux dire en faisant ça, c'est que grâce à la taxe GEMAPI, maintenant je m'intéresse à la métropole, les auditeurs qui m'écoutent comprendront ce que je veux dire. Nous avons 7 millions d'habitants, 131 villes. Je lève la taxe GEMAPI sur ces 7 millions d'habitants. Aujourd'hui, je prends 4 euros par personne fiscale. 4 euros.
Par an.
Dans l'année, 4 euros.
À l'année.
Qui n'accepte pas de donner 4 euros
mais bien sûr.
Pour protéger des inondations.
Mais bien
ces 4 euros, cette année, m'ont rapporté 30 millions. Et ces 30 millions, il y a 2 ans, j'avais que 4 millions. La taxe GEMAPI, il faut fixer le produit qu'on attend. On ne fixe pas le taux, on fixe le produit. Il y a 3 ans, j'avais dit qu'il me faut 4 millions d'euros. Donc on avait levé 4 millions d'euros pour faire des travaux à Sucy-en-Brie, pour rectifier des méandres, pour travailler sur la renaturation de la Bièvre, réouvrir des secteurs de la Bièvre, renaturation de l'Yerre, pardon, le vallon du Saussé, etc. La vieille mer, ce sont des rues, des petits cours d'eau auxquels nous intéressons pour les réhabiliter puis qui traversent la métropole. Vous voyez, on s'intéresse à des choses intéressantes. On a fait 120 km de digues. Bon, ça nous suffisait. Et puis, lorsque j'ai pris la présidence de Seine-Grand-Lacs, il y a 2 ans, je me suis dit, mais cette taxe GEMAPI peut nous permettre, si les travaux qui sont faits permettent de limiter l'effet d'inondation. Alors, appelons ça Paris, sur la métropole du Grand Paris, eh bien, j'ai le droit d'apporter des subventions issues du revenu de la taxe GEMAPI à ces projets. C'est pour ça qu'à Châtillon-sur-Seine, c'est pas à côté, hein, j'ai apporté ces 100 000 euros. C'est uniquement pour montrer qu'on était capable de le faire. Et j'ai dit, je fais des réunions, je dis, je serai à Châlons-sur-Marne, la semaine prochaine. J'étais à Troyes il y a quelques jours, je vais à Saint-Dizier, vous y étiez vous aussi, on a dû vous le dire.
Absolument.
Ce qu'on fait. Merci de le confirmer. Mais quand je fais des réunions avec les agriculteurs et les maires, il y a 200, 300 personnes. Et qui me disent à la fin, mais nous, les maires, on veut bien, les agriculteurs, on veut bien enlever nos digues et nos merlons pour laisser rentrer l'eau dans les zones d'expansion des crues que nous faisons. Mais, monsieur Ollier, vous êtes bien gentil, mais ça fait 30 ans qu'on nous promet de nous indemniser, donc on n'enlève pas nos digues et l'eau, elle passe, tant pis. Parce que si on les enlève, qui va payer? Et je réponds, c'est moi. C'est moi. Grâce à la taxe GEMAPI que la métropole prélève, je vais démontrer que la solidarité de l'amont vers l'aval, c'est-à-dire les travaux que eux font, acceptent de faire le long de toutes ces rivières, je répète, Seine, Marne, Loing, Yonne, etc., pour limiter les effets d'inondation sur Paris et la région parisienne, ça c'est la solidarité amont vers l'aval, il n'y a jamais eu de réciprocité. Comprenez qu'ils ont ras-le-bol de dire, mais nous, on accepte de faire des travaux, on se protège un peu, c'est sûr, mais on vous protège surtout vous en bas, et qu'est-ce que vous faites pour nous? Eh bien, je vais leur dire, moi, je rétablis le double sens et on fait une solidarité de l'aval vers l'amont. Et cette solidarité de l'aval vers l'amont, c'est Seine-Grand-Lacs qui la met en œuvre et c'est la GEMAPI de la métropole qui paye. Et grâce à cette taxe GEMAPI, j'indemnise des agriculteurs à raison d'on a signé une convention expérimentale avec M. Christophe Hilleré. J'étais encore avec lui hier dans le comité de pilotage région Île-de-France, Chambre d'agriculture. Il est président de la Chambre d'agriculture Île-de-France. Avec la métropole, on a signé une convention il y a 2 ans maintenant. Et sur cette base de convention, il a été prévu qu'en cas de surinondation, les agriculteurs qui ont accepté de signer ont 1 000 euros l'hectare s'ils sont surinondés. 1 000 euros l'hectare. Il y a beaucoup d'agriculteurs qui n'ont pas ça à l'hectare en revenus de prairie ou autre, parce que c'est essentiellement là de la prairie. Et j'ai dit aux chambres d'agriculture que je vais voir. J'ai signé une convention avec la Chambre d'agriculture de l'Aube. On a une convention avec Lyon qui va se faire. Et une convention avec la Marne et la Haute-Marne. Tout ceci est en train de se faire. On signe une convention générale d'accord avec la métropole et avec Seine-Grand-Lac. Et ensuite, je décline ces conventions avec des conventions particulières, des agriculteurs qui acceptent d'enlever leur protection pour laisser rentrer l'eau dans ce qu'on appelle les ZEC, les zones d'évacuation d'expansion des crues, et on les indemnisera, alors peut-être 1 000 euros l'hectare si c'est de la prairie. Et j'ai pris l'engagement auprès des chambres d'agriculture de regarder leur barème d'indemnisation, parce que le blé ou le maïs, ça coûte plus cher que la prairie, c'est normal. Donc on reverra le niveau d'indemnisation en fonction de ce que les chambres d'agriculture nous proposeront. Et je signe des conventions en m'engageant de payer. Et je paye, parce que je tiens ma parole. Grâce à la taxe GEMAPI...
Vous voyez, Patrick Ollier...
Attendez, laissez-moi terminer.
Oui.
Qui est en moyenne de 15 euros par an dans toute la France. Tous les GEMAPI, en moyenne, c'est 15 euros.
15 euros par an ?
Et moi, oui. Oui, la moyenne française. Et moi, je suis à 4 euros dans la métropole. Donc, j'ai encore de la marge pour monter. Et avec ces 4 euros, j'ai 30 millions. L'année prochaine, on va peut-être passer à 5 euros. On aura 40 millions. On peut aller très facilement à 80 ou 100 millions. On ne dépassera pas 10 euros par an. Et c'est pareil, c'est ridicule, 10 euros. Tout le monde acceptera de les payer.
Bien sûr.
Imaginez si j'ai 80 ou 100 millions, les travaux que je
par
peux faire...
Par foyer fiscal.
10 euros par foyer fiscal, pas 100 millions par foyer fiscal.
Oui, oui, non, mais on est d'accord.
Imaginez les travaux que je pourrais faire, mais que les EPCI dont on parlait tout à l'heure accepteront de faire, parce qu'ils sauront qu'on est là pour payer et qu'on est là pour indemniser les agriculteurs. Car si jusqu'à présent il n'y avait pas beaucoup de travaux, comme certains disent qu'il n'y en a pas eu, c'est parce qu'il n'y a pas la confiance. C'est parce que les maires et les présidents de PCI ne voulaient pas s'engager dans des travaux, parce qu'ils ne savaient pas comment ça allait se passer, ils ne savaient pas qui allait financer. Et que les agriculteurs disaient ben nous on ne veut pas non plus parce qu'on ne sait pas qui va payer. Aujourd'hui on met les choses au clair entre Seine-Grand-Lac, c'est pour ça que je préside les deux, et la métropole, pour que l'un fasse les choses, paye aussi, et que la métropole, avec la taxe GEMAPI, finance et indemnise les agriculteurs.
Patrick Ollier.
C'est un système que je qualifie de vertueux.
Patrick Ollier, est-ce qu'on peut s'inspirer de ce que vous faites partout en France ?
Ah, bah alors là...
Il n'y a pas que Seine-Grand-Lac qui est concerné par les problèmes de crue.
Je vais vous répondre.
Oui.
Hier, Christophe Hilleret, vous n'avez qu'à l'appeler.
Oui.
Président de la Chambre régionale d'agriculture, à la fin du comité de pilotage, me rendait hommage gentiment et me remerciait de tout ce qu'on a fait avec Seine-Grand-Lac et pour les agriculteurs avec la métropole. Et il m'a dit, tu sais Patrick, au niveau du Bureau national des chambres d'agriculture, on parle beaucoup du système qui a été mis en place avec Seine-Grand-Lac et la métropole. Et notre rêve maintenant est de traduire ce système-là en projet de loi, et on demande au gouvernement d'y réfléchir, pour que ça puisse être imposé dans toute la France, et que le système fonctionne d'une manière obligatoire partout. Mais moi, je suis un homme heureux. S'ils prennent ce système, je suis prêt même à servir de conseiller technique au gouvernement, s'il le veut, pour pouvoir rédiger le texte. Parce que ce qu'a dit Christophe Hilleret hier, rempli de bonheur. Ce qui veut dire que quand on fait les choses sérieusement, qu'on tient sa parole, qu'on respecte ses engagements, et qu'on met les moyens en face des projets, eh bien, ça marche.
Parce que, Patrick Ollier, vous incarnez cette génération de politiques engagée, qui tient sa parole, qui va sur le terrain, qui parle aux maires et qui connaît tous les rouages. Attendez.
C'est le vieux gaulliste qui fait ça.
Mais vous voulez que je vous dise, ça serait bien qu'on se souvienne de fondamentaux, vous savez, de ce que disait le général de Gaulle, parce que parfois, quand on voit la façon dont on détricote cette vision politique, c'est là qu'on peut se dire que le général de Gaulle est bien mort parfois, parce que je peux vous dire que des fois, c'est quand même assez impressionnant, ou même sidération de négligence.
La semaine dernière, je suis allé à Chaumont voir M. Martinelli, le président d'Aglo de Chaumont, pour justement s'il y a un accord, j'ai ma pille avec lui.
Oui.
Ensemble, nous sommes allés poser une gerbe à Colombey des Églises, à la tombe du général, parce qu'il est gaulliste lui aussi. Et le gaullisme a disparu, et les valeurs qu'on défendait lorsqu'on a dissous le RPR. C'est un de mes immenses regrets.
Et je vais vous dire, pour compléter, alors, dans la vie, il n'y a pas de hasard, Patrick Ollier. Il se trouve que hier soir, j'ai acquis une lettre autographe signée du général de Gaulle, manuscrite, envoyée en 1946 à Yvonne Salmon. Vous vous rappelez, Yvonne Salmon, qui était la secrétaire de la première heure, qui est en Angleterre, qui a été la traductrice de la version anglaise des mémoires du général, où il écrivait, suite à la victoire du communisme, « S'il m'avait écouté, les choses auraient pu changer. Nous allons entrer dans les ténèbres. » Et en 1946, lorsqu'il quitte le pouvoir, nous le reverrons qu'en 1958 démarre cette période d'exil à Colombey. Voilà. Il n'y a pas de hasard. Vous
alors, en conclusion, je peux espérer que si on m'écoute pour lutter contre l'inondation dans le bassin parisien, les choses iront mieux.
Ce serait une bonne chose à faire. C'est un plaisir toujours de vous avoir, Patrick Ollier. Je rappelle que
merci
vous êtes
beaucoup.
Le président de la métropole du Grand Paris, maire de Rueil-Malmaison et président de Seine-Grand-Lac. Surtout, ne changez rien, on se retrouve dans quelques instants.
Oh,
Le Salon des maires et des collectivités locales du 19 au 21 novembre 2024 à Paris Expo, Porte de Versailles sur Radio Immo et Radio Territoria.